Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Belbique.
Bonjour, on se retrouve pour revivre 7 jours d'événements grâce au reportage de la rédaction. Merci d'être au rendez-vous. Il y a des moments comme cela. Nous allons évoquer une actualité encore particulièrement lourde en France entre terrorisme et crise sanitaire. Nous allons également nous rendre dans le Caucase, en Indonésie, en Guinée, au Cameroun par exemple. Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez retrouver podcasté sur le site de la radio www.rfi.fr ou sur votre plateforme de recherche préférée. Vous pouvez bien sûr vous y abonner. Nous sommes cette semaine en compagnie de Luc Bronner, le directeur des rédactions du journal Le Monde, auteur d'un récit passionnant qui s'intitule « La montagne blessée ». Bonjour Luc Bronner.
Bonjour.
Merci d'être en notre compagnie ce matin. Vous êtes directeur des rédactions, je l'ai dit, du journal Le Monde et auteur de Chaudin, la montagne blessée, un récit publié aux éditions du Seuil. Avec vous, nous allons en quelque sorte respirer le grand air de l'altitude avant de plonger dans les profondeurs de l'actualité. Nous allons prendre de la hauteur à Chaudin, précisément. Où se trouve Chaudin? Où se trouvait Chaudin?
Chaudin. C'est un ancien village qui a disparu à la fin du 19e siècle, qui est au cœur des Hautes-Alpes, donc dans le sud-est de la France, et qui est aujourd'hui une des plus belles vallées, une des vallées parmi les plus sauvages de notre territoire.
Alors vous racontez l'histoire de ce village qui a disparu et qui a laissé place progressivement avec le temps à une forêt.
Exactement, à la fin du 19e siècle, en 1895, les habitants, il en restait une centaine, se sont réunis et après de longues discussions, ont décidé collectivement de s'exiler et de quitter cette vallée parce que les conditions de vie étaient devenues trop difficiles, invivables même, je pense qu'on peut le dire. Et donc, plus d'un siècle après, la nature a complètement repris ses droits dans cette vallée, laissant l'homme peut-être à sa place. C'est-à-dire une place provisoire sur la planète.
Alors, j'ai beaucoup aimé votre livre, Luc Bronner, parce qu'il est à la fois une méditation sur le temps qui passe, un livre sur l'écologie, sur la nature, c'est un poème en plus sur les fantômes qui habitaient ce village dont vous faites quelquefois le portrait. Et vous avez restitué ce village en quelque sorte grâce aux archives.
J'ai fait une très longue plongée dans les archives avec l'idée d'être le plus proche possible de la réalité telle qu'elle peut apparaître 130 ans plus tard, avec des blancs évidemment, puisque les archives ne couvrent pas toute cette période. Et donc l'envie à la fois de faire du journalisme, de l'enquête le plus détaillé possible et d'assumer une part de littérature également en me disant que une partie de ce qu'on peut ressentir en étant dans un territoire comme celui-là se retranscrit à travers la littérature. Et donc c'est vrai que c'est pour moi une démarche qui est complètement différente de ce que je peux faire en tant que directeur de la rédaction du Monde puisque c'est l'alliance du journalisme et de la littérature dans un livre.
Alors justement, c'est parce que ça vous a fait du bien que vous avez fait ce livre. C'est une démarche de réflexion personnelle, somme toute.
Oui, effectivement, c'est l'envie d'un pas de côté par rapport à une actualité dont on voit encore ces derniers jours qu'elle est, souvent assez dramatique. La conviction aussi qu'en se plongeant dans l'histoire, on apprend toujours, et en l'occurrence, j'étais assez sidéré de voir qu'en fin du 19e siècle, dans une vallée perdue des Hautes-Alpes, se posaient des questions très proches de celles qu'on connaît aujourd'hui, sur, par exemple, la façon dont l'homme assassine son environnement, la façon dont l'homme et la femme, évidemment, sont parfois amenés à choisir de quitter leur pays, émigrer vers d'autres pays. Et donc, je trouvais que ce détour par l'histoire était aussi une façon d'observer nos sociétés.
Alors, Luc Bronner, nous allons faire, comme il est de coutume dans cette émission, des allers-retours entre le passé et le présent, entre la montagne et d'autres cieux, et revenir d'abord sur le nouvel attentat qui a touché la France. C'était jeudi matin à Nice, une ville déjà durement touchée par le terrorisme, une église attaquée, Notre-Dame de l'Assomption, trois fidèles tués et un assaillant arrêté. On en sait un peu plus sur l'auteur de cet attentat, neutralisé par les policiers. Il est âgé de 21 ans, il est arrivé très récemment en France, par l'Italie, à Nice, jeudi soir, Stéphane Burgat.
Il n'était ni inscrit au fichier des empreintes digitales, ni connu des services de renseignement, mais les enquêteurs retracent son parcours à partir d'éléments trouvés en sa possession. Jean-François Ricard est le procureur antiterroriste.
Il était porteur, au moment de son interpellation, d'un document sous forme d'un papier de la Croix-Rouge italienne au nom d'un ressortissant tunisien né en 1999. Il ressort des premières investigations que cette identité est bien celle de l'auteur.
L'arme du crime est un couteau de 30 cm. Deux autres non utilisés ont été retrouvés parmi ses effets personnels, ainsi qu'un Coran et deux téléphones, et son état de santé ne permet pas pour le moment d'interrogatoire.
Il a été transporté en urgence à l'hôpital afin d'être opéré. Il est très sérieusement blessé. Son pronostic vital reste actuellement engagé.
Jean-François Ricard et le parquet antiterroriste qui cherche maintenant à établir le lien avec d'éventuels complices.
Un point donc jeudi soir, la situation est à suivre dans nos journaux. Sachez qu'un homme de 47 ans soupçonné d'avoir été en contact avec l'assaillant a été placé en garde à vue. Les développements de l'enquête sont donc à suivre dans nos rendez-vous d'information. En France, l'événement c'est aussi le reconfinement national annoncé par Emmanuel Macron mercredi soir à la télévision. Écoutons un extrait de ses propos.
Nous avons tous été surpris par l'accélération soudaine de l'épidémie, tous. Si je sais la lassitude et cette impression d'un jour sans fin qui tous nous gagne, nous devons, quoi qu'il arrive, rester unis et solidaires et ne pas céder au poison de la division. Cette période est difficile parce qu'elle éprouve justement notre résilience et notre unité. Mais elle est un révélateur de ce que nous sommes, des femmes et des hommes qui sont liés les uns aux autres. Très peu de générations auront eu comme la nôtre autant de défis ensemble. Mais j'ai confiance en nous, en vous. Confiance en notre capacité à surmonter cette épreuve. Nous devons tenir. À nouveau, nous nous relèverons si nous sommes unis et nous serons unis. Je compte sur chacun d'entre vous. Je serai là, nous serons là et nous y arriverons. Tous ensemble.
Luc Brunner, je fais appel au journaliste, directeur des rédactions du Monde. On va reparler avec l'auteur dans un instant. Comment vivez-vous cette situation très, très, très curieuse avec un pays, la France, qui fait face à deux crises en même temps, sanitaire et sécuritaire ?
Je pense que, comme tout le monde, on le vit d'abord comme citoyen et avec cette inquiétude, ce sentiment d'être confronté à une accumulation assez terrible de moments critiques, de décisions difficiles, de souffrances, de colère parfois aussi. Mais on le vit aussi en tant que journaliste et donc avec la volonté d'essayer de comprendre, de raconter, de décrypter ces deux crises parallèles, très différentes, voilà, quand on est directeur d'une rédaction, le fait de savoir comment utiliser au mieux les ressources d'une rédaction pour raconter, par exemple, le travail de ce qu'on appelait les blouses blanches face au Covid, bien sur l'autre front, raconter le travail des policiers ou des magistrats pour essayer de faire face aux risques terroristes.
Alors c'est une situation quand même unique, une France confinée qui doit faire en même temps face au terrorisme.
C'est une double épreuve, particulièrement difficile parce que face à des attaques terroristes, une partie de la réponse, c'est l'union nationale, ou en tout cas le fait de partager collectivement une forme de solidarité et d'émotion. Et le fait d'être en pleine phase de confinement l'interdit, le rend plus difficile et renferme un peu plus chacun d'entre nous dans sa sphère privée. Et c'est vrai que pour moi, c'est un moment qui est particulièrement important. Quand je pense à la sphère privée, je pense aussi aux réseaux sociaux. Et cet enfermement m'inquiète beaucoup dans le fait que on peut craindre des fracturations, on peut craindre le fait que chacun se referme un peu plus sur sa bulle militante, sur sa bulle d'information, et que du coup, face à ces épreuves, le fonctionnement de la démocratie lui-même soit profondément atteint.
Alors Luc Brunner, repartons en altitude dans les Hautes-Alpes à quelques 1400 mètres d'altitude, c'est ça ?
C'est ça.
1400 mètres d'altitude, donc à Chaudun. Pourquoi ce village, on va revenir sur la date précise de sa disparition, a-t-il peu à peu périclité ?
C'est au final une métaphore de ce que nous connaissons. Ce sont des habitants d'un petit village, donc la partie basse est à 1400 mètres et la partie haute, évidemment, monte beaucoup plus haut, au-dessus de 2500 mètres. Avec la démographie à l'époque, les habitants ont été contraints de cultiver toujours plus, d'utiliser toujours plus d'animaux, de moutons notamment, et mois après mois, année après année, ils ont considérablement abîmé leur environnement, au point que à la fin du 19e, la vallée est devenue complètement improductive. Et c'est vrai que ce que je trouvais intéressant dans cette histoire, c'était le fait de comprendre comment l'homme, et à l'époque l'homme était en interaction complète avec la nature, avait pu, de façon involontaire évidemment, de façon peut-être même inconsciente, gravement abîmer son propre environnement. Et dès lors, je considérais que c'était une histoire qui pouvait être une histoire triste et belle, puisque c'est une histoire très humaine, une histoire qui dit notre humanité, nos faiblesses, notre résilience aussi, puisque raconter le destin de jeunes Français, en tout cas de Français montagnards à la fin du 19e qui ont choisi d'émigrer, c'est voilà aussi un clin d'œil à notre actualité, puisqu'aujourd'hui on regarde par exemple des populations qui viennent du Sahel et qui émigrent, et de se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, des populations françaises faisaient des mouvements comparables.
Oui, parce que dans votre livre, vous avez réussi, Luc Bronner, à nous parler de la population. Vous avez retrouvé sa trace dans les archives, encore une fois. Vous arrivez en quelque sorte à faire revivre des personnages. Il y en a beaucoup dans votre livre qui sont tous aussi attachants les uns que les autres et qui, c'est l'impression qu'il donne à la lecture de votre livre, se battaient pour vivre dans cette vallée de haute montagne.
Complètement. Je suis parti d'une tombe en marchant dans cette vallée, en étant moi-même un marcheur qui adore les sentiers, la montagne. Je m'étais arrêté dans ce petit cimetière où il reste pas grand-chose, il reste une tombe. Et c'est la tombe d'une dénommée Félicie Marin, qui est morte à l'âge de 17 ans en 1877. Et partant de là, un peu comme un défi de journaliste, j'ai cherché tout ce que je pouvais trouver sur cette jeune fille. Quels étaient ses instituteurs, les curés, le destin de ses parents, de ses frères. Et avec l'idée de faire entendre les murmures de ces habitants, de faire connaître leur vie, d'essayer de raconter ce qui a pu les conduire à ces décisions aussi difficiles que peuvent être les décisions d'émigration. Donc c'est vrai que j'avais envie d'incarner, j'avais envie de faire revivre ces personnages, de faire revivre ceux qui sont nos ancêtres. Il se trouve que j'ai grandi aussi dans ces vallées, et donc j'avais la curiosité de raconter leur destin, de faire entendre leurs histoires. Et donc pour ça, c'est vrai que les archives, c'est une richesse assez extraordinaire en France. Les archives permettent d'aller creuser des histoires.
Alors nous allons retrouver Félicie et d'autres personnages, je pense notamment à l'instituteur fidèle Barthélémy, mais je vous propose de continuer notre voyage.
Sept jours dans le monde.
Luc Bronner, partons maintenant pour le Caucase, dans le Haut-Karabakh, où les combats continuent entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'Azerbaïdjan a accusé mercredi l'Arménie d'avoir tué 21 personnes et blessé des dizaines d'autres dans des tirs de missiles ayant visé Barda, la région proche du Nagorno-Karabakh. Le pire bilan civil en un mois de combat pour le contrôle de cette région sécessionniste, on le sait. Une accusation démentie par Yerevan, qui accuse au contraire son adversaire d'en avoir fait autant dans la province convoitée. Cette semaine, vous avez pu écouter sur notre antenne les reportages de notre envoyée spéciale Anastasia Becchio, tel celui-ci sur les réfugiés qui fuient en Arménie.
Une dizaine de voitures stationnent en bordure de la chaussée à un poste de contrôle militaire. Souren, 58 ans, arrive de la région de Martouni, dans le Haut-Karabakh. Son village est désormais à portée de tir de l'armée azerbaïdjanaise. Il a décidé de mettre sa femme à l'abri en Arménie.
C'est très tendu, vraiment très tendu. Ils nous envoient des roquettes Smerch, ils ont des drones, des bombes à fragmentation, ils ont tout et nous n'avons rien. Ils ont détruit des systèmes de défense antimissiles et maintenant, ils essayent de nous éliminer. Ils veulent nous encercler, mais nous allons nous battre jusqu'au bout.
Comme tous les hommes du Haut-Karabakh, âgés de moins de 60 ans, Souren n'a pas le droit de quitter la région. Il n'en avait de toute façon pas l'intention. Tout comme Kamo, 54 ans, qui vient du même village. Lui vient déposer son épouse et sa mère, qui partent chez des proches en Arménie.
Ils utilisent des armes très sophistiquées contre les civils. C'est un vrai génocide de la population du Haut-Karabakh. Notre village a jusqu'à présent été épargné, mais les localités voisines sont à moitié détruites. On est inquiet parce que l'ennemi se rapproche du village voisin du nôtre.
Kamo et Souren repartent vers le Haut-Karabakh. Cette nuit, armés de fusils automatiques, ils vont monter la garde près de leur village.
Dans l'actualité internationale, il faut aussi noter que les Chiliens ont voté dimanche à une très forte majorité en faveur d'une nouvelle constitution pour remplacer celle héritée de l'ère Pinochet lors d'un référendum organisé un an après un soulèvement populaire massif contre les inégalités sociales. L'attentat de Nice jeudi matin donne un relief nouveau aux propos de certains dirigeants du monde contre la France. Emmanuel Macron, après sa réaffirmation du principe de la liberté d'expression via les caricatures, notamment critique du président turc contre le président français et manifestations anti-françaises dans le monde arabe notamment, et en Tchétchénie même critique, même haine cette fois du côté des autorités religieuses. Moscou, correspondance mercredi de Daniel Valo.
Ce sont des mots très violents publiés sur les réseaux sociaux par la plus haute autorité religieuse de Tchétchénie. Le moufti Salah Radji Mejiev accuse Emmanuel Macron d'être devenu le terroriste numéro un au monde et d'avoir insulté l'ensemble des musulmans. Pour le moufti, le président français aurait dû condamner les actions de Samuel Paty au lieu d'en faire un héros national. Le dignitaire lui reproche également, à tort, d'avoir ordonné l'accrochage des caricatures de Mahomet sur tous les édifices publics français. Par cet acte irresponsable, estime le moufti, Emmanuel Macron attise les tensions et s'en prend directement à l'islam, ce qui pourrait avoir pour résultat de nouvelles victimes. Fin de citation. Salah Radji Mejiev n'est pas seulement le plus haut dignitaire religieux de Tchétchénie, il est également le conseiller de Ramzan Kadyrov. Le dirigeant tchétchène a lui-même condamné l'assassinat de Samuel Paty, mais il a insisté sur la responsabilité de la France dans la mort du professeur d'histoire. En janvier 2015, après la tuerie de Charlie Hebdo, Ramzan Kadyrov avait mobilisé dans la rue des centaines de milliers de personnes, non pas pour protester contre la mort des journalistes français, mais pour dénoncer les insultes faites à l'islam.
Mais le monde musulman n'est pas réductible à ces déclarations. Écoutez par exemple ce que nous disait hier Gabriel Maréchaux à propos de l'Indonésie, premier pays musulman du monde.
Nadlatul Ulama, ce nom ne dit pas grand-chose hors des frontières indonésiennes. C'est pourtant le plus grand groupe de croyants musulmans au monde, avec près de 100 millions de membres estimés, réputés pour promouvoir des préceptes de coexistence et de réflexion. L'organisation n'a pas failli à sa réputation ces derniers jours. Si dans une prise de parole, son secrétaire considère que les caricatures du prophète peuvent être insultantes pour le dogme musulman, l'essentiel de son message était ailleurs, dans un appel à ne pas se laisser aller aux émotions, à ne pas suivre ceux qui utilisent l'islam comme une arme politique. Le dirigeant religieux a ensuite concédé que le président Macron n'avait pas complètement tort en affirmant que le monde islamique était en crise, mais que la planète entière semblait elle-même déchirée entre différentes idéologies. Et pour combattre cela, il a conclu en souhaitant voir émerger une plateforme de dialogue basée sur l'honnêteté pour construire un consensus sur des valeurs civilisationnelles communes. Cette position fut saluée par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo de visite en Indonésie, qui appela cependant ensuite le pays à prendre position sur l'essor des peuples musulmans persécutés en Chine et en Birmanie.
Vous écoutez RFI et singulièrement une semaine d'actualité. Nous sommes en compagnie de Luc Bronner qui vient d'écrire La montagne blessée, un récit publié aux éditions du Seuil. Avant de repartir à Chaudun, Luc Bronner, que vous inspire cette haine anti-française de la part de certains musulmans dans certaines parties du monde ?
C'est une haine qui témoigne d'une idéologie, qui témoigne d'un projet politique. C'est une haine qui n'est pas à prendre de façon isolée. On voit bien, en particulier depuis 2015, que la France est en première ligne sur la question du djihadisme et des attaques terroristes sous des formes malheureusement variées et répétitives. C'est vrai qu'on sort de... Quand on prend les dernières semaines d'une attaque contre des journalistes, en l'occurrence c'était Charlie Hebdo qui était visé, même si Charlie Hebdo n'a pas pu être directement atteint par cette attaque, puis un enseignant décapité, et là ces jours-ci des paroissiens d'une église à Nice qui sont victimes de cette idéologie, de ce projet politique et de cette tentative en France, mais pas seulement en France, d'instauration d'un régime, d'une vision complètement épouvantable. Donc c'est vrai que on voit bien qu'on est confronté à une épreuve, à une sorte de très grande difficulté pour pouvoir y répondre. Il y a une réponse policière, il y a une réponse judiciaire, il y a une réponse politique. Et malheureusement, depuis 2015, on est dans un cycle qui semble interminable d'attaques terroristes commises au nom de l'islamisme.
Et certains sites français à l'étranger seront donc surveillés plus étroitement. C'est ce qu'on a appris hier vendredi. Luc Bonner, repartons en altitude à Chaudun. Il faut que vous nous expliquiez ce qui s'est passé, parce que c'est au cœur du livre, le 6 août 1895, qui est en quelque sorte l'acte de décès du village.
Ce jour-là, j'ai retrouvé des photos en noir et blanc qui sont très belles. Les habitants sont réunis avec des notaires, avec des responsables de l'État. Ce jour-là, les habitants signent la vente de Chaudun à l'État français dans une démarche qui est complètement inédite, qui est très inhabituelle. Ces habitants, parce que, je le disais tout à l'heure, complètement effondrés et dépassés par la crise écologique, par leur crise économique au fond, une crise démographique aussi, vendent leurs terres, vendent leurs jardins, leurs maisons, vendent l'église, la mairie à l'État pour partir. Et donc c'est vrai que cette journée, c'est une journée que j'ai tenté de reconstituer où les familles, les pères de famille notamment, puisqu'à l'époque les femmes avaient une place toute relative dans la vie sociale, signent la mort de leur village, et les uns après les autres, sur une petite table en bois, ils viennent signer la vente de ce village. Et donc de ce fait assez exceptionnel qui fait à l'époque la une d'un grand journal qui s'appelle Illustration, un magazine, j'ai tenté de raconter, de comprendre, de remonter, comment on en arrive à cette extrémité.
Alors il s'agissait de vendre le village pour y planter, y instaurer, y développer une forêt.
Alors c'est ça qui est l'autre aspect que je trouve assez extraordinaire, c'est que l'État, en l'occurrence l'administration des eaux et des forêts, a un projet. L'État est à l'époque très inquiet par les inondations, puisque beaucoup d'arbres ont disparu, puisque les pâturages sont abîmés en montagne, les inondations sont souvent catastrophiques. La grande qualité des forêts, c'est aussi de retenir l'eau quand il y a des précipitations très importantes. Et donc, à l'époque, des fonctionnaires qui sont des visionnaires, pensent qu'à Chaudun, on peut faire renaître la nature, et ils vont planter, un chiffre qui est absolument incroyable. Ils vont planter 4 millions d'arbres dans cette forêt en une quarantaine d'années, avec l'idée d'exploiter le bois et avec l'idée aussi que la forêt est un lieu de défense collective contre les crises environnementales. Et c'est vrai que ça me fascinait aussi dans cette histoire d'être confronté à des fonctionnaires complètement anonymes dont on a oublié la trace et qui, à l'époque, ont cette vision que moi je trouve remarquable d'anticiper et de penser le très long terme en plantant des arbres qui font qu'aujourd'hui, Chaudun est une des plus belles vallées des Alpes françaises.
Sept jours en France.
En France, où un nouveau confinement a donc commencé dans la nuit de jeudi à vendredi, quelques heures après des précisions données par le Premier ministre Jean Castex, Marie Cazadebé.
Les Français renouent avec les attestations de sortie. Une heure dans un rayon d'un kilomètre autour de chez eux, sauf dérogation. Mais cette fois, ils peuvent aussi se rendre sur leur lieu de travail lorsqu'ils ne peuvent pas télétravailler. Et les plus jeunes peuvent aller à l'école. Car les établissements scolaires restent ouverts, mais avec un nouveau protocole sanitaire qui oblige les élèves à porter le masque désormais dès 6 ans. La liste des commerces qui restent ouverts est bien plus longue qu'au printemps. On y trouve les opticiens, les magasins de télécommunications, les laveries. Mais près de 200 000 autres, jugés comme non essentiels, font l'objet de fermetures administratives. Les lieux accueillant du public, salles de sport ou de spectacle, restent clos également. Le Premier ministre s'est dit conscient des conséquences économiques pour de nombreux Français.
Un grand nombre de commerçants, les patrons de cafés et de bars, tous les acteurs de l'économie, du sport, de la culture, de l'événementiel. Je pense aussi à ceux dont l'activité, qui sans être interdite, subit de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire, le tourisme, l'hôtellerie, l'aéronautique et l'automobile, les chauffeurs de taxi.
Pour limiter les dégâts, le gouvernement annonce 15 milliards d'euros d'aide. Si au printemps la France a affiché une chute d'activité de 30%, le ministre de l'économie table cette fois sur une baisse de 15%.
Et repartons à Nice pour revenir sur l'assassinat de 3 personnes à l'église Notre-Dame de l'Assomption. Un acte qui a donc choqué les Français et les Niçois en particulier. 2 semaines environ après la décapitation de Samuel Paty. Reportage jeudi de Stéphane Burgat.
Dans un centre-ville cadenassé, quadrillé par les forces de l'ordre, ils sont nombreux à se masser Autour du périmètre de sécurité, le choc est palpable, comme pour Sylvie.
De la désolation, de la peur aussi. On finit par avoir peur. Et puis on pense à ces gens qui sont morts d'une façon si brutale, si horrible, et puis à leur famille. Il faut prendre le taureau par les cornes maintenant, il faut faire quelque chose, ça ne peut pas continuer.
Il faut dire que cette basilique est au cœur de la ville. Certains nous expliquent d'ailleurs qu'ils y entrent à l'occasion pour une prière. Les chrétiens, comme Jeannette, se sentent particulièrement visés.
Ah bon, je trouve que c'est horrible. D'abord, on s'attaque à la France tout entière. Ensuite, on s'attaque à une religion, à la chrétienté. Ce sont des gens innocents qui viennent prier leur Dieu et on s'attaque à leur croyance. Moi, je trouve que c'est une attaque insoutenable et horrible.
C'est aujourd'hui une plaie béante qui est rouverte pour les Niçois qui repensent bien sûr à l'attentat du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. Beaucoup d'incompréhension, beaucoup de colère également en cette période de tension en France. Après l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, des voix s'élèvent maintenant à Nice pour se demander pourquoi les églises n'étaient pas plus étroitement surveillées.
Confinement, terrorisme, on en parlait il y a quelques minutes avec Luc Bronner. Les urgences et les situations de crise modifient considérablement l'agenda d'Emmanuel Macron, Julien Chavannes.
Trois attaques terroristes en à peine un mois, une deuxième vague de Covid incontrôlable, des Français reconfinés. L'exécutif navigue de crise en crise, ballotté entre deux tempêtes, l'une sécuritaire et l'autre sanitaire. Entre coronavirus et terrorisme, Emmanuel Macron n'a plus la main sur son calendrier. Le chef de l'État est obligé de rebondir en permanence face à une situation devenue imprévisible, où une urgence en remplace une autre. Le choc du reconfinement est suivi quelques heures plus tard d'une nouvelle attaque terroriste. Du coup, les stratégies de communication sont balayées en quelques heures. Le débat au Parlement sur le reconfinement a par exemple été torpillé par l'attentat de Nice et la pression se fait de plus en plus forte sur le sommet de l'État. Deux semaines après l'assassinat de Samuel Paty, Emmanuel Macron promet encore de nouvelles mesures, mais le président doit accélérer sur le délit de séparatisme ou sur la haine sur Internet, au risque d'alimenter les procès en impuissance. On en a fait plus en 10 jours que ceux qui veulent changer la Constitution, se rassure comme il peut un cadre de La République En Marche.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Luc Bronner, et nous allons continuer à parler de Chaudun et de cette montagne blessée. Luc Bronner, votre livre est aussi une réflexion sur les habitants de la montagne et leurs difficultés. Vous écrivez « On ne peut comprendre la montagne sans penser à la sueur de ceux qui l'ont occupée, exploitée, vécue. Les Alpes sont des cimetières de hameaux abandonnés par l'homme. » À ce point-là ?
Oui, parce que les Alpes ont longtemps été en surpopulation. Quand on regarde dans l'ensemble des montagnes françaises, la quasi-totalité des vallées étaient occupées avec des habitations qui montaient parfois très haut en altitude. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé, en promenant en montagne, observer les traces laissées par l'homme, les traces laissées par des familles, par des travailleurs, avec souvent des efforts considérables pour maintenir des chemins, pour faire tenir des églises, pour que les maisons tiennent le choc en montagne, notamment en hiver. Et donc c'est vrai qu'il y a, contrairement à des montagnes qui sont toujours habitées, aux montagnes marocaines par exemple, ou au Népal où les montagnes sont restées habité très haut, bonne partie des hameaux qui étaient des hameaux dans les fonds de vallée sont maintenant inoccupés. Et donc j'avais envie, à travers ce livre aussi, de raconter les montagnards. On a souvent dans la littérature traité, et là je fais un clin d'œil, les premiers de cordée, c'est-à-dire les alpinistes, ceux qui gravaient les montagnes pour la beauté du geste. Et c'est vrai que je trouvais que les montagnards étaient un peu absents. C'est un récit qui est peut-être moins glorieux en apparence, mais qui est, je trouve, très humain, très profond et qui raconte notre histoire.
En tout cas, dans votre livre, ces montagnards sont présents. Vous faites renaître sous votre plume certains d'entre eux. Je pense notamment à un certain Fidel Barthélémy qui était instituteur, qui est un des instituteurs qui sont passés dans ce village et qui, comme ses prédécesseurs et ses successeurs, faisait la dictée. Vous en publiez un extrait d'ailleurs d'un texte de dictée. Je vais lire le début, comme ça ça servira de dictée à nos auditeurs également. « Je gravissais lentement à pied des sentiers assez rudes, virgule, conduit par un homme que j'avais pris pour être mon guide, virgule, et dans lequel, virgule, durant toute la route, virgule, j'ai trouvé plutôt un ami qu'un mercenaire. Quel personnage que ce fidèle, le Barthélemy ?
D'abord, il y a le nom et le prénom. C'est vrai qu'un instituteur qui s'appelle Fidèle Barthélemy, c'est déjà pour moi l'envie d'en savoir plus. J'avais envie aussi de retrouver ce qu'on appelle les hussards de la République, c'est-à-dire ces instituteurs qui, à partir de l'instauration de la Troisième République, ont aussi contribué à la construction de la nation, à la construction de toutes nos valeurs. Et Fidèle Barthélemy, qui a probablement vu passer mes propres ancêtres dans une autre vallée, qui est la vallée de Champollion, à quelques kilomètres, était un instituteur à Chaudun. Alors c'était un instituteur, et c'est là où je trouve que l'histoire est passionnante aussi, c'est qu'en retrouvant les notes administratives de ces instits, les hussards de la République, il y avait, comme dans toute société, des très bons, des moyens, et des hussards de la République qui étaient un peu médiocres. Et à Chaudun, probablement, comme dans les territoires perdus de la République française aujourd'hui, comme peut-être dans des ZEP, des zones d'éducation prioritaire ou dans le monde rural, on envoyait des instits dont peut-être on ne voulait pas ailleurs. Et donc, comme ils le pouvaient, tant bien que mal, ils enseignaient avec dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles par ailleurs, puisque les élèves eux-mêmes ne pouvaient rester en classe que peu de temps. Et donc, en racontant Fidèle Barthélemy, pour moi, il y avait le désir de mettre des visages, de mettre des mots sur cette belle histoire de l'école républicaine, avec ses réussites et ses ratés, puisque je n'en ressors pas avec l'idée que tout était magnifique, loin de là.
Un homme qui est passé par les États-Unis, il me semble, non ?
Alors, Fidèle Barthélemy, je ne crois pas. C'est un curé, qui est un autre personnage de l'histoire, qui, lui, était parti au Canada.
Ah oui, j'ai confondu le curé et l'instituteur.
Du 19e siècle. Exactement, le curé Robert, qui est parti, lui, comme beaucoup de montagnards à l'époque. C'est quelque chose qui est peu connu, mais une partie des habitants, entre 1850 et 1913 même, des Alpes du Sud, ont émigré vers le Mexique, vers le Canada et vers la Californie. Et une partie des habitants de Chaudun, en quittant leur village en 1895, sont allés en Californie, pour souvent comme en tant que berger, pour essayer de faire fortune et de sortir de la grisaille de ce qu'était la France à l'époque, en tout cas de ce qu'était les Alpes, la grisaille des Alpes à l'époque.
Et j'en reviens un instant à l'instituteur, à cet instituteur qui se plaint et qui constate que de par la situation du village et de par le travail de ses habitants, les enfants ne restent pas tellement à l'école. Ils y sont peut-être un peu en hiver, mais plus quand il fait beau.
Non, parce qu'à l'époque, il faut vivre, il faut survivre, et donc chaque enfant est une force de travail. Chaque enfant permet de garder les bêtes, de faire du travail du bois, de porter une partie des récoltes. Et donc, dans l'arbitrage quotidien, hebdomadaire, fait par les familles, l'école était souvent perçue comme étant une tâche secondaire. Et c'est vrai que je suis sorti frappé, là aussi, de ce qu'était l'enseignement à l'époque. On était vraiment aux prémices de ce que sera plus tard l'école républicaine, avec un niveau d'exigence extrêmement élevé. C'est pour moi aussi un clin d'œil par rapport à l'actualité, par rapport à tous les discours nostalgiques sur la Troisième République. Ça permet de relativiser le fait que tout allait mieux avant et que l'école était formidable dès le début. On voit qu'on en est très loin à l'époque, en tout cas dans ce petit village.
Luc Brunner, nous allons repartir à Chaudun dans quelques minutes, mais je vous propose avant de faire une petite parenthèse et de nous rendre en Afrique.
7 jours en Afrique.
Et partons pour le Cameroun. Le pays était sous le choc dimanche, et le demeure d'ailleurs, après l'attaque d'une école par un commando qui a tué au moins 6 enfants de 9 à 12 ans dans leur classe à Kumba, dans la région du sud-ouest anglophone, en guerre depuis près de 3 ans. Correspondance dimanche dernier de Polycarpe Essomba.
Un peu comme pour évacuer leur colère, les populations de Kumba, plusieurs centaines, ont manifesté dimanche dans les rues de leur ville. Ils brandissaient des pancartes où on pouvait lire, entre autres, « La vie de nos enfants compte, stop à la guerre, trop c'est trop ». Des messages, expression d'une exaspération largement partagée après que l'inimaginable se soit produit dans cette école désormais martyre. Toute la journée, le film de l'horreur a continué à être explicité dans les médias. Ainsi a-t-on appris que les assaillants ont attaqué ces jeunes élèves avec des armes à feu et des machettes. Le concert de condamnation s'est lui aussi poursuivi, dominé par l'incompréhension sur les mobiles d'un tel massacre. À côté de cette émotion toujours aussi vive, les Camerounais crient à la justice pour les victimes. Justice, oui, mais contre qui? Pour le gouvernement, il ne fait pas de doute que les auteurs sont les séparatistes anglophones. Ils vont payer, promet-il. Mais pour certains observateurs, cette version des faits est encore à prendre avec beaucoup de prudence. Seule une enquête indépendante, indique-t-il, peut permettre de faire la lumière sur ce samedi noir.
Au moins 140 morts pour le pire naufrage, dit-on, de l'année au large du Sénégal, des dizaines de portées disparues en Mauritanie et 6 corps repêchés près de Dakar. Sachez aussi donc que les drames de la migration se succèdent le long des côtes de l'Afrique de l'Ouest ces derniers jours. Suite d'une semaine d'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo, cette fois la société civile du territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu donc, est très remontée contre l'armée. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 19 civils ont en effet été tués lors d'une attaque des rebelles des forces démocratiques, les ADF, dans un village de la localité de Mamov, situé à une vingtaine de kilomètres de la cité d'Oïcha. La population doute de plus en plus de la capacité de l'armée à les protéger. Correspondance de Pascal Moulegua.
C'est la plus grosse attaque dans la région, mais cette fois, les fusions d'Issa auraient dû être évitées, pense Kinos Kituo, président de la société civile des Mamové.
On a alerté l'armée au moment opportun, mais l'armée n'a pas voulu intervenir. Alors, vers 19h, c'est l'ennemi qui a attaqué le village et on a commencé à tuer des personnes par des coups de machette et des haches. Et pour le moment, nous avons eu là des 19 personnes tuées, 40 maisons commerciales incendiées, plusieurs personnes et bien emportées en brousse.
Même quand plusieurs sources sécuritaires affirment que les troupes déployées à Bahiti étaient absentes au moment de l'attaque, rien n'est fait fléchir Anthony Mualushaï, lieutenant et porte-parole de l'armée dans la région.
Tout est mis en marche pour venger ces morts. Chercher à savoir, on a prévenu tout ça, ce n'est pas un débat qui nous intéresse. Nous nous félicitons parce que nous sommes arrivés et nous avons fait notre travail. Les bilans auraient dû être très lourds sans notre intervention.
La MONUSCO dispose elle aussi d'une base à 6 kilomètres du village attaqué, une région difficile d'accès et où il n'est pas facile de distinguer les forces de sécurité des groupes armés. Ils portent souvent les mêmes uniformes. La fréquence des attaques inquiète cependant à Mamové. C'est la quatrième en seulement moins deux mois pour une quarantaine de victimes selon les responsables locaux.
Direction la Guinée avant de revenir en France. Luc Bronner, après l'annonce de la victoire d'Alpha Condé à l'élection présidentielle, alors que des commissaires de la CENI ont dénoncé des fraudes lors du dépouillement des bulletins, la situation politique a fait monter le prix des denrées, accentuant ainsi les difficultés pour la population, tandis que tous les magasins n'ont pas rouvert. Reportage à Conakry de Charlotte Hydrac.
Assis sur un banc au marché Taouya, Moussa attend les clients. Ce commerçant vend un peu de tout, dit-il, des ampoules ou de l'anti-moustique. Après 10 jours de fermeture, il vient tout juste de rouvrir sa boutique.
On était coincés dans les maisons, on ne vend pas. C'est-à-dire tu vis de jour en jour. Donc il faut que l'État nous donne certaines garanties.
Et vous avez ouvert une seule porte de votre boutique, pourquoi?
Parce qu'on a peur au ventre. Qu'est-ce qui va venir?
Après la paralysie de ces derniers jours, le quartier a retrouvé un peu d'animation. Mais Abdoulaye Barry, vendeur de produits pharmaceutiques, a gardé porte close. Il n'a pas pu s'approvisionner au grand marché Madina de Conakry.
On n'a pas parlé depuis 9 jours aujourd'hui à Madina marché. Si là-bas c'est fermé, la Guinée est fermée.
Des difficultés d'approvisionnement qui ont entraîné la hausse des prix de certains produits de première nécessité, notamment celui du pain. Cette jeune femme revend des demi-baguettes. Elle tente d'expliquer à ses clients qu'elle n'y est pour rien.
Avant c'était 4 pour 5 000. Allez là, c'est 3 pour 5 000. Les clients ne viennent pas, ils passent. Ah, là, il n'y a pas de farine, farine ne vient pas. C'est pour cela qu'augmente le prix.
Juste à côté, le prix du pot de riz a doublé par rapport à la semaine dernière, de 2 500 à 5 000 francs guinéens, un peu moins de 50 centimes d'euros.
L'actualité africaine, c'est aussi l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. On vous en parle dans nos rendez-vous d'information et sur le site de la radio. Thank you.
Une semaine d'actualité.
Et revenons donc en France avant de vous retrouver, Luc Brunner, et reparlons du confinement, du nouveau confinement qui a commencé donc vendredi. Écoutez comment il est vécu à Chabris dans l'Indre, c'est-à-dire dans le centre de la France. Reportage d'Alexis Bédu.
Coiffeur, restaurant.
Dans la file d'attente de la boulangerie du village de Chabris, ses habitants sont encore sous le choc des annonces.
Macron, il a pris une bonne décision. Par contre, la deuxième vague, là, les commerces vont fermer, la maison de la presse, les restaurants, les cafés. Ça va être compliqué. Hein. L'économie, elle va se casser la gueule. Hein. Même ici, hein, puis les chômeurs et tout. Oh là là, la misère. Ça va être une catastrophe.
Et comme tout le monde, Eric va reprendre l'habitude des attestations de sortie.
Pour faire les courses, tout ça, papier. Ils disaient un mois, mais à mon avis, ça va être plus.
Les coiffeurs du village commençaient juste à retrouver leur clientèle de début d'année. Alors un deuxième confinement.
Je suis déçu, parce que c'était une punition. Ben, comment on va faire? On va fermer. On n'a pas le choix, hein, ceci dit.
Le président de la communauté de communes, Philippe Jourdain, aurait aimé que les petits commerces, fondamentaux dans les villages, restent ouverts.
Le fleuriste local, l'électricien pour aller chercher un petit électroménager, eh bien ces gens-là vont devoir fermer et les grandes surfaces vont prendre de l'ampleur à nouveau. Et c'est là l'aberration pour nous. C'est dommage, quoi. C'est là que je dis, aujourd'hui, il faudrait prendre au cas par cas les choses.
Des interrogations, beaucoup d'incompréhension, mais les habitants respecteront les règles. Et heureusement, les balades dans la forêt d'à côté seront bien autorisées.
Luc Brunner, on pourrait aussi parler des difficultés à venir des commerçants de la région des Hautes-Alpes.
Oui, comme sur le reste du territoire, effectivement, moi je suis très frappé de ce qui se passe avec des petits commerçants amenés à fermer boutiques, là où des grands groupes comme Amazon vont prospérer plus que jamais, des grands groupes qui payent très peu d'impôts. Et là, je trouve qu'il y a, une limite majeure dans le dispositif mis en place. J'espère qu'ils vont réussir à le corriger, mais je trouve que dans ce qui fait le lien social, dans ce qui fait la vie économique, dans ce qui fait la vie démocratique, les petits commerçants sont des acteurs essentiels. Et j'ai l'impression que, pour le coup, il y a une vision un peu éloignée du territoire qui fait que, à la fin, vont prospérer les hypermarchés, Amazon, la Fnac, j'ai rien contre eux, mais c'est vrai que je trouve que c'est une des grandes faiblesses des dispositifs actuels, c'est que tout le monde est traité de la même façon, pour des bonnes raisons, évidemment. Je pense que tout le monde a conscience que le confinement est malheureusement la dernière solution vu la gravité de la crise sanitaire. Mais cette absence de discernement dans la mise en œuvre en ce qui concerne les petits commerçants me semble être le porter en tant que tel les germes de crise future.
Alors Alexis Bédu, dans son reportage réalisé à Chabris, nous disait que les habitants avaient toujours la ressource durant ce confinement d'aller se promener dans la forêt alentour. Parlez-nous de cette forêt qui a donc succédé à ce village de Chaudin, vous qui êtes marcheur. Donnez-nous envie d'aller nous promener dans cette forêt qui d'ailleurs n'est pas accessible aussi.
Si la forêt est accessible, il faut marcher. Donc c'est une bonne nouvelle parce que je crois que la récompense de lieux magnifiques est encore plus grande quand il y a un peu de sueur avant. Donc on peut se rapprocher en voiture à quelques kilomètres de cette vallée et de cette forêt. Ensuite, il faut marcher. Et marcher, moi je trouve, à Chaudin comme ailleurs, en ouvrant les yeux, les oreilles et tous ses sens. Et c'est vrai que ce qui est formidable, parce que l'homme a disparu de cette vallée depuis 130 ans, la nature a repris ses droits, et la nature a repris ses droits avec toute la violence de la nature, par ailleurs. Hein. Il faut surtout pas imaginer que la nature, surtout en montagne, est forcément calme. Mais on y trouve une diversité de la faune, de la flore, qui pour moi, si on prend le temps de s'y arrêter, si on prend le temps de perdre du temps en font un lieu absolument extraordinaire.
Et d'ailleurs, dans votre livre, il y a des pages superbes sur les différentes plantes hein, qui poussent dans la région et sur ces arbres. Donc, il faut revenir sur le fait que ce reboisement a été un travail considérable. Vous faites référence à Giono et à son fameux homme qui plantait des arbres. Ça a été un travail colossal qui a duré des années.
Des dizaines d'années, et pendant des dizaines d'années, des ouvriers ont été payés par l'État pour creuser et progressivement pour permettre de réparer la nature. C'est pour ça que j'ai choisi le titre de la montagne blessée, c'est que la montagne a été grièvement blessée par l'homme. Elle a été très largement réparée par l'homme. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a un message d'espoir. C'est en disant l'homme, on le sait, malheureusement, abîme sa planète, abîme son environnement. L'exemple de Chaudun, qui est un petit exemple, mais qui est un bel exemple, montre qu'on peut aussi réparer ce qu'on a abîmé. Et donc, je trouvais que dans cette histoire, il y avait aussi une morale heureuse, positive, et c'est tellement rare aujourd'hui. Il y avait aussi un peu de poésie, puisque observer ces lieux, je trouve, nous emmène à une forme de poésie, et ça m'avait encore plus donné envie de raconter cette histoire.
Et j'en reviens à cette notion, c'est aussi une méditation sur le temps qui passe.
Oui, moi j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'écouter le silence. Ça peut paraître étrange, mais quand je dis écouter le silence, c'est écouter les bruits de la nature, c'est prendre le temps d'observer, de ressentir, d'essayer de comprendre les vents, de comprendre la façon dont la nature se transforme selon les saisons. On est par exemple à un moment de l'année où les gens vont peu en montagne puisque les journées sont courtes, mais ce sont des journées absolument extraordinaires. Les arbres peuvent prendre des couleurs d'un rouge vif, d'un jaune vif. On voit que la nature se prépare à l'hiver. Et donc, c'est vrai que pour moi, il y a une part de poésie, de méditation dans le fait de raconter la montagne telle qu'elle est aujourd'hui. Cette montagne sauvage, montagne très belle. Et j'avais, à travers ce livre, une forme clairement de littérature, pour le coup, qui m'éloigne un peu du journalisme, l'envie de raconter la montagne, en l'occurrence Chaudun, mais je crois que pour le coup, ces lignes valent pour la plupart des montagnes.
On a beau aimer le journalisme, ça fait du bien de devenir un peu romancier. C'est pas un roman, c'est un récit, votre livre. Mais se pencher sur des personnages, les faire revivre, etc., etc., c'est aussi passionnant, non ?
Oui, alors évidemment, j'ai plus de liberté dans un livre que dans les colonnes du Monde, où on défend une forme d'austérité, de rigueur. Voilà. Et donc c'est vrai que un livre permet d'avoir une part de subjectivité, une part de poésie, de liberté, et tout en restant pour moi proche du journalisme sur le volet enquête, sur un souci que j'avais d'aller chercher des détails, des lettres, des comptes rendus, qui permettaient d'être le plus près possible de la réalité de l'époque. Mais c'est vrai que pour moi, quel bonheur d'écrire un récit comme celui-là, c'est certain.
Oui, parce que je dois dire que vous êtes avant tout reporter, Luc Bonheur, directeur certes, mais reporter dans l'âme.
Exactement. Et d'ailleurs, quand j'ai annoncé à la rédaction du Monde il y a quelques semaines mon souhait à la fin de l'année de revenir à l'écriture et donc de laisser mon poste de directeur de la rédaction en considérant que un des privilèges du journalisme, c'est le travail de terrain. Et donc, à partir de l'année prochaine, j'aurai cet immense plaisir de refaire du reportage.
Merci Luc Bonheur. Vous écrivez que Chaudun raconte notre passé et notre futur, probablement. Il faut donc le lire pour comprendre ce que pourrait être, je sais pas moi, un aménagement écologique du territoire, par exemple. Merci.
Merci.
Merci Luc Bonheur. Vous avez donc écrit La montagne blessée, un récit publié au Seuil. Une semaine d'actualité réalisée par Tiffany Manta. Je vous donne rendez-vous demain pour le magazine Idée. Et à 2 jours de l'élection présidentielle américaine, nous nous intéresserons à l'américanisation du monde, qui est un phénomène plus subtil qu'il n'y paraît. Nous serons en compagnie d'un historien, Ludovic Tournès, qui vient d'écrire un livre éclairant sur le sujet, où l'on comprend par exemple que l'américanisation a également américanisé les Américains, en quelque sorte. Demain dimanche, 16h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.